Joël Pété, bonjour. Donc, bonjour. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Les chalets de la Combase. Alors, je pense qu'on dit Combase, coin chat, et pas combat, coin chat, peut-être les
ouais,
deux.
On peut le dire
voilà,
aussi.
Si on le prononce à la Savoyarde ou pas, ou à la Chablaisienne éventuellement. Alors, ce quartier est assez particulier. Vous allez nous en dire deux mots. Il existe toujours. D'ailleurs, c'est pas un quartier qui a disparu, qui est toujours.
C'est sa première particularité, c'est qu'il est toujours là.
Il est toujours là. Alors qu'il était fait pour être éphémère, hein, c'est bien ça.
C'est ça.
Petit coup d'histoire sur une histoire qui est d'ailleurs assez récente et qui est liée aux événements qui se sont passés en Algérie au moment des accords d'Évian.
Oui, en fait, il s'est passé que beaucoup de pieds noirs ont été rapatriés dès mars, hein, puisque les accords d'Évian, c'est mars, même si on parle vraiment de cesser le feu, d'arrêt de la guerre en juillet. Le gouvernement, l'État, a décidé de promouvoir une politique de relogement de ces gens qui arrivaient en masse.
Oui, puis ils n'avaient rien, parce qu'ils partaient
rien du
avec
tout.
La valise.
La valise ou le cercueil.
La valise ou le cercueil, comme avait dit ceux qui les avaient mis dehors.
Voilà, c'est ça. Donc, l'État a aidé, la ville aussi, puisque très vite à Thonon, le maire s'est organisé pour avoir un grand terrain. Il avait quelques terrains dans cette zone de la ville qui étaient des vergers, des vignes. Hein. C'était pas du tout un.
Oui, c'est la campagne. Hein.
Voilà, c'était encore la campagne.
Alors le maire, c'était Georges Pianta. Donc,
voilà, Piante.
Piante. Pour dire les combats, Piante, Piante. Georges.
Voilà. Et il s'est organisé pour arriver à 18 000 m² de terrain qu'il a cédé à l'office HLM pour qu'ils organisent cette construction de préfabriquer. Oui, vraiment, au départ, c'était des constructions légères qui n'étaient pas destinées à durer, mais à parer dans l'urgence au relogement des rapatriés.
Oui, parce que les gens sont arrivés, il fallait les mettre quelque part. Beaucoup, enfin beaucoup, c'est pas si grand que ça, mais un certain nombre ont été à la clinique de la Sapinière qui étaient désaffectés. Mais c'était évidemment très, très provisoire, puisque c'était des chambres d'une clinique qu'ils occupaient. Et puis d'autres se sont répartis dans la ville, mais dans des conditions certainement difficiles.
Oui, parce qu'il y a des gens qui ont mis à disposition des logements, mais qui n'étaient pas forcément très bien équipés. Ils ont été dans les écoles ou les colonies de vacances. Enfin, c'était vraiment paré à l'urgence. Et dans ce même contexte, en fait, sur le département, ils ont organisé la construction de ces trois lotissements. Il y en avait un à Rumilly, un à Métay, et le plus grand était sur Thonon, puisqu'il y avait ce grand terrain. Et en moins d'une année, ils ont financé, élaboré, construit.
Alors, ce n'était pas des baraquements, c'était quasiment. Enfin, c'était des petits chalets construits de manière préfabriquée, mais enfin, ce sont quand même des chalets, d'ailleurs, qui existent naturellement toujours.
Hein. Oui, c'est assez intéressant parce que c'est les premiers pas des constructions préfabriquées. Hein, justement, j'en parle également parce que c'est une tentative un peu d'industrialisation de l'habitat, alors que c'est pas forcément évident de le faire, puisque les gens, au niveau de leur maison, ont vraiment envie de personnaliser. Mais c'est le début quand même de ces ossatures bois qui ont été faites pour loger les gens rapidement.
Ossatures bois qu'on utilise maintenant beaucoup, mais à l'époque, on en parlait assez peu. Enfin, ici, on a toujours construit des chalets, naturellement, puisque.
Oui, mais les chalets n'étaient pas forcément tous en bois.
Oui.
Et puis là, on a tout un système de poteaux-poutres. Dans toutes les candidatures, celle-là a été retenue déjà parce qu'esthétiquement, ils étaient mignons. Ils étaient mis sur un socle en béton, enfin sur un soubassement en béton qui permettait d'avoir une cave, un garage.
Voilà, c'est une entreprise de Danmas qui avait été. Il y a eu plusieurs appels d'offres, naturellement. Enfin, il y avait un appel d'offres et plusieurs entreprises ont répondu. Et c'est une entreprise Danmas. Alors, je ne sais pas si elle existe toujours.
Non, l'entreprise Joli Potu a fermé ses portes au début des années 80, mais c'était aussi intéressant d'en parler parce qu'il y a énormément de chalets Joli Potu dans la région, hein, sur le Chablais. Et puis après, ils avaient évolué dans la construction préfabriquée en faisant des maisons qui livraient sur des camions, hein, toujours dans ce principe de parois préfabriquées. Ils avaient déposé des brevets, etc. Donc, voilà. Ça fait vraiment partie de l'histoire industrielle, entre guillemets, de notre région aussi.
Oui, le choix aurait pu être porté sur ce qu'on appelle des algéco.
Ça aurait pu. Il y avait aussi des constructions en métal. Enfin, dans les dossiers refusés qui n'ont pas été conservés, mais ils parlent de ça, de constructions complètement métalliques.
Ces petits chalets sont devenus un quartier. Un quartier assez particulier, puisque au départ, alors vous parliez tout à l'heure des pieds noirs, c'était donc le terme de ces Français d'Algérie qui revenaient. Hein. Ils se sont installés dans ce quartier, puis ils ont constitué une sorte de communauté, en fait.
Oui, c'est vraiment un village dans la ville, et c'est presque un hameau à part entière, parce qu'il est haut en couleur. Il est haut en couleur esthétiquement, avec ses chalets au milieu de la ville, aux volets multicolores, et haut en couleur parce qu'il, par les habitants, qui leur gouaille et leurs habitudes du Sud, qui tranchent vraiment avec les Hauts-Savoyards.
Oui, effectivement, avec l'accent. Alors, je ne sais plus comment on dit, le patouette, je crois.
Oui, patouette.
Patouette, c'est ça. Donc, voilà, qu'on entend moins maintenant, mais qui, à l'époque, tranchait un petit peu sur l'accent savoyard et chablaisien en particulier. Alors, ce quartier aurait dû normalement disparaître, mais ce n'est pas le cas. Donc, pour quelle raison?
Non, alors, ce quartier, en fait, était amené, comme ceux à proximité d'Annecy, à être démonté pour laisser place à des petits collectifs. Ça devait donner en fait le temps aux pieds noirs de s'installer définitivement dans la région. C'était une étape, mais pas quelque chose de définitif, pas l'arrivée. Mais à Thonon, les gens s'y sont plus dans ce quartier. Et début des années 90, ils ont constitué une association. Alors une association des habitants de la Combasse-Coinchat qui organisait des fêtes, des spectacles avec les enfants, des arbres de Noël.
On en voit quelques photos dans votre livre d'ailleurs.
Voilà. Et puis, qui a aussi organisé le rachat des chalets, avec les HLM, bien sûr.
C'est ça, ils ont eu la possibilité ensuite de les acquérir, et donc de les transformer aussi, de les améliorer.
Voilà, parce qu'on était arrivés dans les années 90, donc les chalets étaient construits déjà depuis très longtemps. Les gens avaient fait beaucoup d'aménagements, ils étaient chez eux, quelque part, entre guillemets. Les loyers n'étaient pas très élevés, mais en même temps, les chalets n'avaient pas été conçus... pour durer, il n'y avait pas de double vitrage, il n'y avait pas d'isolation vraiment fiable, etc.
Oui, donc,
voilà, il fallait faire de gros travaux. C'était compliqué de faire des gros travaux, d'augmenter le loyer, que faire? Et les gens ne voulaient pas partir. Donc, il a fallu trouver une solution intermédiaire qui a été le rachat par les habitants de leur chalet.
Les municipalités de l'époque, donc, accepté de les vendre à ceux qui voulaient bien les acheter. Ils ont tous été achetés ou il y en a encore qui sont en location?
Non, ils sont tous vendus en fait, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça n'a pas été un acte de vente global, ça s'est fait petit à petit en fonction des habitants et de leur possibilité de le faire.
Alors vous-même, vous y avez habité un certain nombre d'années, quel souvenir est-ce que vous en gardez de ce quartier?
Cet esprit d'entraide et de convivialité qui a perduré, même, alors moi je ne suis pas d'origine pied-noir du tout, je suis même 100% chablaisienne, mais on a toujours cet esprit d'entraide et on le voit dans les photos du livre. Souvent, il y a un barbecue qui fume derrière. Ça, c'est un des premiers caractéristiques. On buvait l'apéritif. Il y avait beaucoup de partage. Et puis les vélos. C'est un quartier où il y avait des vélos. Tout le monde allait à l'école en vélo. Oui, quelque chose qui...
On n'est pas loin du centre-ville.
Quand voilà.
Même. Ouais, absolument.
Donc, c'était le moyen de locomotion de pas mal de gens.
Depuis, vous avez quitté ce quartier, mais j'imagine que vous y revenez de manière régulière.
Oui, j'y reviens, on fait toujours partie de l'association, et puis on connaît toujours les gens.
Alors ce livre, donc, on peut le trouver où? Comment est-ce qu'on peut se le procurer?
On le trouve dans les librairies thononaises, on le trouve dans les maisons de la presse, on le trouve à Cultura, on le trouve un peu partout.
Alors il est très bien documenté parce que vous avez naturellement tout le travail que vous avez fait vous, mais vous êtes fait aider par un certain nombre de spécialistes, pour parler à la fois de l'histoire et de tout le reste.
Oui, parce que personne ne sait tout de toute façon. Donc déjà, l'aimant Habitat, donc qui est le nouvel office HLM de Thonon, m'a ouvert les portes de ses archives. Et il y avait beaucoup de choses. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Les archives municipales également, puisqu'on a toute la démarche du regroupement des terrains. Et puis après, j'ai le CAUA aussi qui m'a aidé, donc qui est le Comité Architecture, Urbanisme et Environnement, qui a aussi apporté un regard sur le livre et qui m'a relu pour éviter les bêtises. Et puis, on a aussi l'Académie chablaisienne, dont je fais partie.
C'est effectivement important d'avoir toutes ces contributions techniques, parce que ça donne de la valeur au livre.
Il y a aussi un petit cabinet d'architecture qui m'aide. J'en parle parce que c'est ma fille, donc j'y suis encore plus attachée. Et elle est spécialisée elle est architecte, mais du patrimoine. Donc, elle a cette spécialisation-là, qui permet aussi d'avoir un regard un peu pointu.
Donc, ce livre qui s'appelle donc tout simplement Les Chalets de la Combasse-Coinchat, donc Naissance et vie d'un quartier préfabriqué, Bah, il est toujours préfabriqué, mais il est toujours là. Je pense qu'il est là pour un bon petit moment.
Voilà, bah maintenant, en fait, il s'est installé dans la durée. Les gens l'ont racheté, ont clos, puisque en fait, bah, le terrain a été partagé en 31 parcelles pour les 31 chalets. Et bah, les chalets dataient de 63-64, donc il a fallu quand même faire des améliorations et les réhabiliter. Et chacun l'a un peu fait à sa guise, mais... Même si ça devient très chamarré, puisque ben, les bardages changent, les vitres changent, certains ont même modifié la forme en installant un étage, en faisant des lucarnes, etc. Mais malgré tout, on reste dans un petit quartier de chalet.
On aura le plaisir de découvrir grâce à votre livre. Ce livre est édité par une association qui s'appelle Découverte du patrimoine, donc vous pouvez nous en parler.
Oui, c'est une association qui va avoir 25 ans, qui a pour but de promouvoir le patrimoine du Chablais et du Léman, français ou suisse, et qui n'est pas limité à l'architecture ou à un quartier de la ville, mais à la faune, la flore, enfin, qui a beaucoup de possibilités. On avait déjà fait, et ça avait été l'origine de l'association, une exposition qui s'appelait « Thonon, industrie et tradition » sur la ville de Thonon. On a déjà édité un premier livre sur la chapelle de Plaine-Drance, à Châtel, au milieu des pistes. Pareil, un lieu que beaucoup de gens connaissent et côtoient et dont peu de gens connaissent l'origine.
Ces livres, bon, j'imagine qu'on peut les trouver comme celui-ci, encore en librairie.
Oui, bien sûr. Ou on peut demander à l'association. Mais en général, en librairie, on les trouve.